Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est la nouvelle année, avec cela les bons vœux que l'on souhaite souvent en croisant les doigts derrière le dos sans vraiment être sûr qu'ils se réaliseront. Le pape François, lui, pour l'année 2021, nous propose rien moins qu'un guide céleste, un homme presque aussi discret qu'un ange, Saint Joseph. Un illustre personnage évidemment pour les chrétiens, et pourtant qui connaît vraiment cette figure, et plus encore, qui l'a pris comme guide dans cette vie. Pour nous aider à faire connaissance, le pape François a publié une lettre sur Saint Joseph, Patrice Cordet, un cœur de père. Une lettre que je vous propose de parcourir ensemble ce matin. L'année de Saint-Joseph, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous, pour nous en parler, Dominique Joseph, vous êtes religieux de la famille Saint-Joseph, située dans l'Hérault, donc en Occitanie, près de Béziers. Vous êtes prêtre et professeur d'écriture sainte à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait le détour, le voyage, pour nous parler de cet homme qui, lui aussi, à Noël, a fait un petit voyage, pour ceux qui ont suivi la liturgie. On va donc découvrir un petit peu cette figure, parcourir cette lettre donc, qui a été publiée le 8 décembre dernier, en la fête de l'Immaculée Conception, à l'occasion de laquelle le pape François a déclaré donc une année Saint-Joseph pour toute l'Église universelle. Ma première question, c'est tout simplement, est-ce qu'il y a eu d'autres années Saint-Joseph comme ça dans l'histoire de l'Église ?
Eh bien, vous allez droit au but, c'est exactement ça l'originalité, c'est la première fois. Il n'y a pas d'année Saint-Joseph, et je dirais même que en soi, c'est une étrangeté. Vous voyez, ici à Toulouse, on a connu les 800 ans des Dominicains, il n'y a pas eu d'année Saint-Dominique à l'échelle de l'Église universelle. On ne fait pas d'année pour un saint, que ce soit Saint Ignace, Saint Thérèse d'Avila, qui vous voulez. Et donc, tout à coup, le Saint-Père, avec ses grandes intuitions pastorales qui le caractérisent, dit « nous, on va faire une année Saint-Joseph ». Et il est vrai que Saint Joseph occupe une place dans le magistère, c'est-à-dire dans les publications des papes notamment, vraiment importante, beaucoup plus importante que n'importe quel autre saint, faisant exception de la Vierge Marie, c'est bien entendu.
On va donc commencer tout simplement par le début, faire un tout petit peu connaissance avec vous, parce que pour découvrir ce guide qui est Saint Joseph, donc au dire des propos du pape François, et faire confiance au guide vous-même que vous êtes, pour découvrir cette figure un peu mystérieuse, on a envie de savoir un peu qui parle. Donc vous êtes professeur d'écriture sainte, vous êtes donc un bon spécialiste de Saint Joseph. Il y a des mariologues, vous êtes quoi, joséphologue alors, c'est ça ?
Oui, le titre existe, il a été inventé au Canada par le père Roland Gauthier, qui est un des grands références, des grands spécialistes de ce qu'on appelle la joséphologie. Je reconnais que le nom n'est pas très joli, pas très euphonique, et je n'aime pas bien l'employer. Mais enfin, disons, je dirige l'Institut Redemptoris Custos, qui est notre institut de recherche théologique sur Saint Joseph, Redemptoris Custos en référence à l'exhortation apostolique publiée par Jean-Paul II en 1989.
Saint-Joseph, vous, à titre personnel, c'est une figure que vous avez toujours connue et particulièrement, on va dire, méditée, ou est-ce que ça s'est fait à la faveur de votre entrée dans cette famille qui porte ce patronage, le nom de
ce Saint-Patron ? Oui, Saint-Joseph, j'ai la chance d'avoir été éduqué par des parents qui avaient une forte dévotion à la Sainte Famille, donc il a toujours fait partie de mon horizon culturel et religieux. Mais je dois reconnaître qu'il y a eu une rencontre qui a quand même été une orientation majeure, une prise de conscience, je ne sais trop comment l'appeler. Au tout début de la famille de Saint-Joseph, nous avions encore très peu l'idée de la fondation à laquelle nous étions en train de participer. Nous faisions chaque jeudi soir une veillée d'adoration près du Saint-Sacrement. Et un de ces jeudis soirs-là, devant le Saint-Sacrement, je ne sais pas vraiment vous expliquer pourquoi ni comment, pourquoi certainement pas, mais mes yeux se sont ouverts sur une présence. Voilà. J'étais là devant Jésus et il y avait quelqu'un derrière moi qui m'offrait au Seigneur, qui me soutenait dans ma prière orientée vers le Seigneur. Et il m'est apparu de manière évidente que c'est quelqu'un qui avait toujours été là, dont j'avais toujours pressenti le soutien et la protection, et que c'était Saint Joseph. Et depuis cette révélation, c'est peut-être un grand mot, mais cette prise de conscience, je n'ai eu de cesse que de le poursuivre de mes assiduités, de vouloir mieux le connaître, de voir le débusquer dans son silence et dans l'ombre dans laquelle il se cache. Et oui, c'est une de mes grandes passions, Saint-Joseph, certainement.
Alors, on y reviendra parce que c'est vrai qu'il y a une question qui vient tout de suite, c'est qu'on se demande en fait s'il faut attendre de recevoir la grâce de découvrir cet homme. Hein. On dit que parfois que ce sont les saints comme ça qui nous choisissent plus qu'autre chose. Ou est-ce que à force de lire ces lettres apostoliques ou entre autres celles-là, on peut le découvrir, mais on verra ça plus tard. Commençons par le début. Le début, tout simplement, le pape François introduit son propos en citant beaucoup l'Écriture, en rappelant qui est cet homme. Voilà, ça va être on va dire pour un professeur d'écriture sainte comme vous aussi calé, un peu une conversation de bistrot, vous m'en excuserez, mais donc c'est un humble charpentier, on le sait, c'est l'homme à qui a été confié donc Jésus et la charge de la Sainte Famille, il fuit en Égypte, on a entendu ça dans la liturgie aussi il y a peu de temps, quel portrait vous pourriez nous faire de cet homme juste, dit aussi, rappelle aussi le pape François.
Oui, l'homme juste, c'est le qualificatif que donne saint Matthieu. Écoutez, puisqu'on est dans les conversations de comptoir, et je vous remercie de me mettre à l'aise dans cette simplicité, restons au tout premier mot. L'Évangile, le Nouveau Testament, s'ouvre par la grande généalogie patriarcale, qui aboutit sur saint Joseph et Marie et Jésus, d'accord ? Eh bien, rien que ça, ça nous dit quelque chose de fantastique, c'est que de tous les hommes, saint Joseph est celui qui est le plus près du Seigneur Jésus. Je veux dire, c'est le plus près au sens littéral, au sens de la lettre. Au tout début de l'Évangile, on nous montre un homme, saint Joseph. Et il n'y a pas d'homme qui soit plus proche du Seigneur Jésus que saint Joseph. Bah, rien que ça, on a dit l'essentiel. Alors ensuite, on peut dire que c'est un sage, que c'est un juste, parce que juste et sage, c'est quasiment des synonymes. Et là, ça fait référence à tout l'Ancien Testament, ça fait référence à la tradition des écrits, ça fait référence à beaucoup de choses de la vie commune, mais aussi surtout de l'accomplissement de la loi. Et c'est ce qui va caractériser saint Joseph, c'est son accomplissement de la loi, notamment dans le discernement qui concerne la grossesse de la Vierge.
Il paraît que chez les Juifs, il est dit que quand on ne trouve pas une solution à une question, il fallait demander aux charpentiers, que les charpentiers seraient des figures de sagesse.
Absolument, absolument. Les charpentiers étaient bien loin d'être des artisans méprisables. C'était la classe la plus honorable, la plus sage et la plus érudite. Hein. Quand on avait un problème...
La plus érudite ?
Ah oui, oui. Comme vous venez de le dire, c'est dans le Talmud, hein, que quand on avait un problème, on disait « Mais y a-t-il donc pas un charpentier qui puisse nous sortir de cette impasse ?»
Pourquoi ? Parce qu'il fallait faire beaucoup d'études ou parce que c'était des hommes qui étaient traditionnellement assez religieux ?
Traditionnellement, oui. Et puis, c'est pas tellement les études. De fait, il y avait des études parce que charpentier, c'est autre chose que de raboter des planches. Hein. Il fallait faire des plans pour des toitures, je cherche le mot, des charpentes, évidemment, merci. mais il faisait aussi des huches à pain, il faisait aussi des bancs, il faisait tout ce qui est par partie du mobilier. Mais avec une intelligence, vous savez, il y a des... Dans les pères de l'Église, je crois que c'est saint Justin, je me souviens plus très bien, enfin bref, au IIe siècle, on a une citation comme ça, quelqu'un qui vante les charrues de Jésus, fils de Joseph. Oui. Donc, il faut penser aussi à ça, c'est qu'il avait une compétence extraordinaire, qu'il a transmise au Seigneur Jésus, et que 100 ans après, on employait encore les charrues que Jésus avait pu faire dans l'atelier de Joseph de Nazareth. Donc oui, il y a une compétence, il y a des études, il y a une compétence qui est une expertise. Pensons pour nous, c'est peut-être le plus simple, aux compagnons du Tour de France. Quelle que soit leur discipline, eh ben, c'est quand même le haut du panier. Ce sont des experts, ce sont des gens extrêmement compétents dans leur art. Ils font des choses que la plupart des autres de leurs collègues n'arrivent pas à faire. Donc les charpentiers, c'est cet ordre-là. Mais il faut voir que dans le judaïsme, la profession n'est jamais isolée de la vie religieuse.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a deux choses à faire pour faire un homme, c'est lui apprendre la Torah et lui apprendre un métier, les deux. Et donc saint Joseph fait partie de cette tradition-là. Et on lui a appris un métier, très bien, mais on lui a appris la Torah. Et les deux vont ensemble. Et alors il y a une sorte de culture corporatiste en quelque sorte. Et donc c'est parmi les charpentiers qu'on trouve des experts, aujourd'hui on dirait peut-être de l'exégèse, j'en sais rien, mais enfin des experts dans la parole de Dieu.
Alors par ailleurs, donc fils de David, descendant de la lignée de David, ça voulait dire quoi en fait à l'époque ? On avait l'impression, quand on lit l'écriture comme ça rapidement, ou quand on l'entend à Noël, on a l'impression que c'est, oui bon alors lui c'est vrai que c'était de la lignée de David, bon c'est comme un lointain héritage. Est-ce que ça avait une autre incidence dans sa vie ? Ça voulait signifier quelque chose aussi aux yeux des autres ou...
Ah bien sûr, c'est la noblesse. Hein. D'ailleurs, vous voyez avec quelle révérence l'ange salue Joseph dans le songe. Il l'appelle fils de David, c'est son titre de noblesse et il est reconnu par l'ange. Donc oui, c'est important. Voyez que dans le deuxième livre de Samuel, c'est au chapitre 7, Dieu s'engage solennellement envers David. Et c'est, vous savez, c'est le moment où David a bâti son palais, il est un peu au sommet de sa gloire, et il se dit « je vais faire une maison pour le Seigneur, je vais bâtir un temple qui soit digne de l'Arche d'Alliance ». Et Dieu lui envoie Nathan qui lui dit, le prophète lui dit « c'est moi qui vais te bâtir une maison ». Mais là, c'était au sens d'une lignée, hein, comme on dit la maison des Bourbons ou la maison de qui vous voulez. Donc il dit « le Seigneur s'engage et il dit à David « je vais te donner un descendant, un Messie qui sera sur ton trône et qui règnera à jamais. Ton trône durera dans les âges ». Donc il y a une promesse d'un Messie, d'un descendant de David, dont la royauté serait donnée par Dieu et affermie par Dieu. Et donc il est important de reconnaître que Joseph est dans cette descendance-là, dans cette lignée-là, dans la maison de David, parce que c'est lui qui introduit Jésus dans la maison de David, et c'est en Jésus qu'on est appelé à voir l'accomplissement de cette promesse, bien au-delà de toutes les grandeurs des royautés temporelles. Il est le roi des rois dont la royauté est éternelle, et donc évidemment elle ne finit pas.
Quid de, j'allais dire, avait-il une barbe pour vous taquiner, mais quid de son âge ? Il me semble que vous étiez venu il y a quelques temps déjà, et il me semble que je vous avais déjà posé la question, et je me souvenais plus de la réponse. Si, je crois que vous disiez, vous, il était forcément jeune parce qu'il s'aimait. C'est le souvenir que j'avais. Était-il un homme d'un âge mûr, comme dit parfois la tradition orthodoxe ?
Quand on a développé la tradition d'un Saint Joseph âgé, on a voulu faire deux choses. On a voulu rendre compte de sa sagesse, parce qu'on se dit, l'expérience venant, un homme est plus sage. Mais ça, l'Écriture se joue de ce genre de clichés, hein, dans le livre de la sagesse, dans le livre du Siracide, mais pensez au livre de Saint Paul, aux lettres de Saint Paul, quand il écrit à Timothée, il dit « c'est pas parce que tu es le plus jeune que tu peux pas avoir autorité, au contraire, la sagesse n'est pas liée à l'âge ». Et on a voulu faire une deuxième chose, on a voulu préserver la virginité de la Vierge Marie. On se disait « si c'est un vieillard, on a la garantie qu'il y touchera pas ». Ben, avec tous les scandales qu'il y a aujourd'hui dans les journaux, on sait bien que l'âge ne fait rien à l'affaire, ne garantit rien du tout. Donc non, je crois qu'il faut plutôt voir le problème. La Sainte Vierge est la fille préférée du Père, c'est le chef-d'œuvre de la création. Quel père veut pour sa fille chérie un mariage avec un vieillard décati ? Il va vouloir un homme digne d'elle, un homme à sa hauteur, capable de l'aimer, capable de la deviner, capable de la protéger, et dont elle puisse être amoureuse. Enfin, on a envie que sa fille soit heureuse en mariage. Eh ben, ce père-là, il se trouve que c'est le bon Dieu, donc il a pu lui créer un homme qui lui soit vraiment assorti.
Il y a des couples qui fonctionnent, et lui a parfois 10 ans de plus, ou 15.
Ah, ben, entre 10 ans de plus. Là, je parlais de...
De vieillards.
Oui, je parlais des vieillards chauves et avec une vieille canne et tout ça. Non, je ne sais pas quelle était la différence d'âge entre Marie et Joseph. Ils avaient peut-être 10 ans d'âge, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils étaient de la même génération, c'est certain.
Dans cette introduction, le pape François dit que son propos, évidemment, se situe dans la lignée des propos ou actes de ses prédécesseurs. Je vais y arriver. Et entre autres, donc, la déclaration de Joseph comme patron de l'Église universelle, c'était le 8 décembre 1870 par le bienheureux Pie IX. Quel était le contexte de cette proclamation de Saint Joseph patron de l'Église universelle ?
Oui, exactement, vous faites bien de le rappeler, c'est qu'avant d'être une année jubilaire pour Saint-Joseph, c'est le 150e anniversaire de la proclamation du patronat de Saint-Joseph sur l'Église universelle. Et à ce moment-là, Pie IX est dans une situation où l'Église tout entière, mais Pie IX particulièrement, dans une situation qui, humainement, est désespérée. Le concile Vatican I a été prématurément dissous, les évêques ayant dû rentrer dans leur diocèse. Au mois de septembre de cette année-là, fin septembre, la royauté italienne, qui est en réalité, quand je dis royauté, c'est un alibi pour un mouvement politique anticlérical et anti-papiste, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais bref, est entré manu militari au Vatican, et a mis fin à ce qu'on appelait le pouvoir temporel du pape. Donc c'est là que Pie IX se déclare comme prisonnier.
En plein concile Vatican,
hein, d'ailleurs. Il dit « je ne peux plus être l'évêque de Rome, je n'ai plus la mobilité et la liberté de mouvement nécessaires ». Il se déclare prisonnier du Vatican. Donc on est dans une situation extrême politiquement. Et à ce moment-là, et on a déjà vu ça au XVe siècle, on a déjà vu ça dans plusieurs moments forts de l'histoire de l'Église, eh bien, il y a un réflexe de crier vers Saint-Joseph. quand on ne sait plus en sortir, eh bien on crie vers Saint Joseph et on se souvient qu'il est le protecteur de l'Église, comme il a été le protecteur de la Sainte Famille.
C'est la seule et unique raison. C'est une interprétation que vous faites ou est-ce que on pas du sait tout, non, comment ça s'est décidé?
C'est le décret. Non, c'est dans la lettre du texte. C'est le décret du 8 décembre 1870 qui l'explique. Il donne trois raisons. Il dit la puissance de Saint Joseph qui fait qu'on a recours à lui, la difficulté, les attaques contre l'Église et contre le Saint-Père, et le vœu des pères conciliaires. C'est-à-dire que le Concile Vatican I avait demandé au pape, les pères du Concile avaient demandé au pape qu'il déclare patron Saint-Joseph de l'Église universelle. J'ai mélangé les mots, mais merci de les remettre à leur place. Et donc, c'est ce qu'il a fait aussi par obéissance ou par écoute de la demande des pères conciliaires.
Alors, le pape François ne détaille pas la situation historique donc, de cette déclaration, de Saint-Joseph comme patron de l'Église catholique, mais dit que, évidemment, nous sommes aujourd'hui en pleine crise, pas très compliqué de voir ce qu'il veut dire, et il redit qu'au milieu de cette crise, il y a des gens qui vivent en deuxième ligne, c'est son expression, qui jouent un rôle inégalé, et en l'occurrence, il parle aussi de Saint-Joseph. Donc ça serait un patron pour ce temps particulier, à entendre le pape François, et comme un modèle de toutes ces deuxièmes lignes, c'est ça ?
Oui, c'est d'ailleurs assez émouvant la manière... Le pape François s'exprime de manière toujours personnelle, à cœur ouvert, on pourrait dire. Et donc, il nous rapporte sa contemplation du monde pendant le premier confinement. Et il voyait la pandémie et il voyait les médecins à l'œuvre, le personnel soignant, les infirmières. Mais il voyait aussi les gens qui continuaient à assurer la livraison des colis. Il voyait les prêtres qui étaient dévoués généreusement pour visiter les malades. Il voyait toutes sortes d'initiatives humaines dont on ne parle pas, qu'on ne voit pas forcément. Ça ne faisait pas la une des médias spécialement, même si on a applaudi les médecins et les soignants, ça c'est autre chose. Et il a pris conscience que dans tout ce que nous vivons au quotidien, indépendamment de la pandémie, nous dépendons des personnes qu'on ne voit pas et qu'on fait une œuvre qu'on n'a pas l'habitude de considérer. C'est-à-dire que ce que nous sommes est essentiellement forgé par les gens avec qui nous vivons et qui nous apportent mille soins, que ce soit le boulanger, le coiffeur, mais que ce soit nos frères, nos sœurs, nos époux, etc., nos enfants. Donc, et alors il s'est dit, mais voilà exactement ce que représente Saint Joseph. Quelqu'un à qui on ne pense pas, quelqu'un à qui on ne fait pas attention, mais qui s'arrange pour que tout soit prêt, pour que tout soit en ordre, et qu'on puisse réaliser notre vocation, qu'on puisse employer les moyens que Dieu nous donne pour réaliser notre vocation. Alors il a dit, c'est aussi ça qu'il faudrait peut-être découvrir, hein, que finalement on se trouve tous plus ou moins dans une situation, j'exagère en disant fantomatique, mais l'activité est bridée, nos agendas se vident, on est quand même bien obligé de reconnaître qu'on ne peut plus vivre comme avant. Il dit, redécouvrons comment Saint Joseph a vécu. Changeons notre mentalité par rapport à l'action.
C'est ce qu'on va faire. Patrice Cordet, c'est le titre de la lettre apostolique. On fait une première pause musicale et puis on vous retrouve pour se plonger dans cette lettre.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
2021, l'année de Saint-Joseph, c'est pour rappel le titre de l'émission Vivante Église. Telle a été la décision du pape François, qui donc, pour ceux qui nous rejoindraient, le 8 décembre dernier, a déclaré donc une année Saint-Joseph, donc du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. On est donc en plein dedans et on parcourt une lettre apostolique publiée par le pape François intitulée « Patris Cordae, un cœur de père ». À propos de Saint-Joseph, si l'on avance dans ce texte, je saute un petit peu dans le troisième chapitre, donc intitulé « Père dans l'obéissance ». Il nous est rappelé que Saint Joseph a eu plusieurs songes, quatre, si j'ai bien compté et bien lu.
C'est ça.
Ce qui laisse entendre que ça n'était peut-être pas un homme comme les autres, ou en tout cas qui avait des faveurs particulières. Avant qu'on se plonge un petit peu plus dans le texte, encore une question un peu générale, mais vous nous disiez que c'était un homme très religieux. Avoir des songes comme ça dans l'écriture, c'est Dieu qui signifie que l'on a une place particulière quelque part, ou c'est assez courant ?
Ça n'est pas rare. Il y a dans l'écriture deux traditions. D'abord, les songes sont fréquemment attestés. Il y a deux traditions. Il y a une tradition qui est très positive, très enthousiaste, en disant Dieu parle, et il parle ainsi à ceux qui sont sages, à ceux qui se font preuve de sagesse. Il y a une deuxième tradition qui dit « Attention, parce que vous êtes mal outillés pour faire la distinction entre les rêves et les songes. » Je le dis avec mon langage parce que vous m'avez permis de ne pas être scientifique. Mais donc une tradition qui est plus méfiante et qui dit « Discernez bien si les songes viennent de Dieu. »
Alors le premier songe, celui-là probablement que c'est peut-être le plus connu, c'est que quand un ange donc apparaît à Joseph, ou en tout cas quand en dormant, il a donc ce songe où un ange lui signifie donc qu'il faut prendre Marie comme épouse, au-delà peut-être de la surprise de cette grossesse. Et puis un deuxième songe, on peut le citer celui-là, qui est tout proche donc du mystère qu'on vient de fêter. Un ange donc demande à Joseph, il lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. » On peut dire quoi que Joseph, c'est quoi ? C'est le signe de l'alliance par excellence, c'est-à-dire il fait sa part, et puis Dieu fait la sienne en même temps, et les deux font un père exemplaire.
Certainement que chacun fait sa part. Je crois que la vertu de la paternité de Saint Joseph est dans sa transparence. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui est père. Comprenez que Dieu respecte infiniment l'homme. Ce qu'il nous demande de le faire, il ne nous le demande pas à moitié. On n'est pas des marionnettes. Il nous fait confiance. Et le pape François le dit à plusieurs reprises dans cette lettre. Dieu nous fait confiance. Il nous donne les moyens de vivre notre vocation et il attend qu'on le surprenne. Donc il y a une réelle implication personnelle de Saint Joseph. Il est père comme son cœur lui dit d'être père. Il est père selon son cœur. Mais parce que son cœur est tout orienté à Dieu, parce que son cœur est tout donné à Dieu, il permet que la paternité qu'il exerce témoigne et manifeste la paternité du Père éternel. Et c'est le seul saint qui a cette grâce-là, cette prérogative-là. On a une infinité de saints pour nous montrer le visage de Jésus, mais il n'y a qu'un seul saint qui nous montre la paternité du Père éternel.
Les songes, est-ce qu'il faut en rajouter, est-ce que vous voulez commenter d'autres songes ? Le troisième, c'est donc celui qui lui dit de revenir en Égypte, et le quatrième, c'est celui qui lui avertit, parce que Joseph, en rentrant, est un peu inquiet de voir donc le fils d'Hérode régner en Judée, qui lui indique qu'il faut aller vivre à Nazareth. Ces songes, pourquoi est-ce que le pape François dit « père dans l'obéissance » dans ces cas-là ? C'est parce qu'il apprend à obéir à cette voie, c'est ça ?
Voilà, je crois que le pape est sensible à cette dimension du silence de Joseph quand il a entendu la voix de Dieu. Il ne pose pas de questions. Aussitôt, prenant l'enfant et sa mère, il partit en Égypte. Le aussitôt montre qu'il se lève de nuit. Il se lève dès qu'il sait ce que Dieu lui veut, il sait clairement ce que Dieu veut de lui, il y va. Il discute pas, il pose pas de conditions. Vous voyez, prenez quand un ange apparaisse à l'un d'entre nous et lui dise « tu seras le père du Messie ». Je pense que la première réflexe que nous aurions, c'est de discuter le morceau. On dirait, oui, bah, c'est bien gentil, mais le père du Messie, c'est-à-dire le fils de David, moi, tu vois, je vis dans un atelier misérable, alors il me faudrait un carrosse, il me faudrait des servants, il me faudrait des apprentis pour que je puisse me consacrer à son éducation, mais que le commerce puisse tourner. On aurait tout de suite plein d'idées pour faire fonctionner les choses, et on demanderait au bon Dieu, parce que ce qu'on imagine, on n'a pas les moyens de le faire. Saint Joseph nous introduit dans un autre rapport à la parole de Dieu, qui n'est pas d'imaginer et de demander au bon Dieu les moyens, mais de recevoir de Dieu les moyens de faire ce qu'il nous demande. Et donc si Dieu me le demande, c'est que j'ai les moyens de le faire, parce que Dieu ne me demande que ce qui est à portée de main, que ce qui est en mes capacités. Donc Saint Joseph n'a jamais trouvé sujet de discussion, parce qu'il a cette confiance-là que Dieu ne peut lui demander que des choses qu'il est capable de faire.
Il y a une question quand même qui vient, si Joseph nous est proposé comme modèle, alors on entend ce que vous dites, mais c'est que nous, on avance sans avoir de songe. C'est un peu plus facile quand un ange vous apparaît, même si c'est dans un songe, et vous dit ce qu'il faut faire. Nous, il faut qu'on avance un peu au doigt mouillé, et en plus, on est quand même a priori moins sain ou moins juste que ne l'est Saint Joseph.
Oui, c'est une façon de voir les choses qui est peut-être pas tout à fait ajustée, parce que ça voudrait dire qu'il y ait des préférences ou des privilèges. Chacun reçoit en fonction de la mission qu'il a. Il est évident que tout le monde n'a pas le même traitement, mais regardez, dans une famille, il y a plusieurs enfants, les parents sont tout donnés à chacun des enfants, mais ne donnent quand même pas de la même manière. Il y en a un qui aura besoin de plus de temps, plus d'affection, l'autre aura besoin qu'on le laisse plus autonome, qu'on le laisse plus tranquille. Ben, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est privilégié parce qu'on lui parle davantage, ou que l'autre est oublié parce qu'on lui parle moins. Non, on reconnaît ce qu'il faut pour que chacun ait. Donc le Seigneur nous donne tout ce dont on a besoin, et ne croyons pas que les songes sont là pour lever l'indétermination, sont en quelque sorte des facilités. Il est vrai que la manière dont le Saint-Père s'exprime peut porter à le croire. Par exemple, quand il dit que Saint-Joseph est préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie, je crois qu'il faut voir, il faut entendre dans le Saint-Père le pédagogue, celui qui veut essayer de nous faire comprendre une idée. Il ne faut pas trop s'attacher à la lettre. La grossesse incompréhensible de Marie, elle est incompréhensible pour tout le monde quand on sait que Marie est vierge. Mais Joseph, il connaît Marie. Il a un cœur qui est créé pour l'aimer, qui est complètement assorti à la Sainte Vierge. Il sait ce qui se passe en elle. Alors, vous m'avez provoqué tout à l'heure, mais rassurez-vous, je vais résister à la provocation en disant on pourrait commenter un peu les songes ou l'écriture, ce que j'adore faire mais qui prend du temps. Mais dans le discours de l'ange dans l'Annonciation à Joseph, il y a divers moments, et le premier, qu'on appelle techniquement l'exposition, c'est-à-dire on commence par dire les choses qui sont déjà établies avant d'aller plus loin, en quelque sorte. Prenez n'importe quel conte pour enfants, on commence par dire la princesse était dans la plus haute tour d'un château, et voilà, ça c'est un fait qu'on ne discute pas, c'est l'exposition, on nous montre ce qui est. Or, quelle est l'exposition dans le discours de l'ange à Joseph? C'est Marie est vierge et Marie est enceinte de Dieu. C'est pas ça la question. La question c'est est-ce que tu vas en assumer la paternité? Tout le chapitre 1 de l'évangile de saint Marc est là, non pas pour nous dire que Marie est vierge et mère, parce que ça c'est une évidence pour l'Église primitive, c'est une évidence pour saint Joseph, mais elle est là pour nous dire c'est toi qui vas être le père. Et le chapitre 1 se termine sur l'imposition du nom, c'est-à-dire sur saint Joseph qui assume la paternité de Jésus. Donc c'est pas la conception virginale qui rend les choses incompréhensibles. C'est que, au contraire, et c'est pour ça que l'ange dit « ne crains pas », la crainte, c'est autre chose, c'est une autre nature que la peur, ça n'est pas sans rapport avec la peur, mais c'est pas exactement de la peur. Joseph voit la présence et l'action de l'Esprit-Saint. Il sait que cette grossesse est une grossesse dans laquelle Dieu est impliqué, et c'est son indignité qui le fait reculer, et non pas le doute sur l'origine de l'enfant.
Alors, transition très bonne, merci. On revient un tout petit peu en arrière, Père dans la tendresse. Donc, ça, c'est donc un autre chapitre du pape François. L'histoire du salut, dit le pape François, s'accomplit en espérant contre toute espérance à travers nos faiblesses. Un peu plus loin, si telle est la perspective de l'économie du salut, alors nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. Et un peu plus loin encore, seule la tendresse nous sauvera de l'œuvre de l'accusateur. Le pape François laisse entendre que la manière dont l'accusateur nous regarde, c'est de nous montrer du doigt, dit-il. Le jugement que nous utilisons en l'encontre des autres sont souvent un signe de l'incapacité à accueillir en nous notre propre faiblesse, notre propre fragilité. Et Joseph serait une manière d'inverser cela. Est-ce que vous pouvez nous faire rentrer dans la pensée du pape François qui nous incite donc à l'école de Joseph à accueillir notre faiblesse?
Oui, là je crois qu'on touche du doigt la pédagogie du pape François, c'est-à-dire que ce document tient plus de l'homélie qui explique comment une situation ou un texte nous rejoint dans notre quotidien que dans un exposé très théorique ou théologique. Parce qu'il faudrait alors s'interroger sur qu'est-ce que c'est que cette faiblesse de Saint-Joseph. Non, ici, je crois que c'est vraiment un souci pastoral. Le Saint-Père voit combien le monde souffre, et souffre dans la paternité, et souffre dans des déchirements d'identité intérieure. On a du mal, il emploie l'expression plusieurs fois, à se réconcilier avec sa propre histoire. Aujourd'hui, on est une énigme à soi-même. Et nos faiblesses deviennent des imperfections insupportables qu'on veut, sinon occulter, en tout cas au moins minimiser, enfin gérer ou assumer, je ne sais pas selon les mots qu'on entend dire. Et donc là, il y a une tendresse, mais il faut voir que le mouvement vient d'abord du Père. La tendresse du Père, la tendresse de Dieu sur notre propre faiblesse, et j'insiste, faiblesse, pas péché, hein, il ne s'agit pas d'avoir de l'amour ou de la complaisance pour son péché, mais sur notre faiblesse. Eh bien, c'est ce qui, dans la paternité, nous fait accepter cette faiblesse, nous fait nous ouvrir à l'amour qui guérit et qui réconcilie. Et alors il se passe quelque chose, un phénomène intime, presque mystique, qui fait qu'on commence à comprendre qu'on a passé beaucoup de temps à essayer de devenir quelqu'un, à valoir quelque chose, à obtenir une reconnaissance mondaine pour pouvoir se présenter devant Dieu drapé de quelques perfections, alors que ce qu'il aime en lui, ce ne sont pas ce que nous appelons nos grandeurs, parce qu'en tout cas elles viennent de lui. Celui qui est généreux, Dieu l'a créé généreux. Celui qui est patient, Dieu lui a donné la patience. Mais notre misère. Et alors en découvrant ce Père qui a un regard de tendresse pour notre misère, on se prend à aimer ce que Dieu aime en nous parce que Dieu l'aime en nous. Pas parce que c'est aimable en soi, parce que c'est ce que Dieu recherche en nous et c'est ce qu'il attend que nous l'offrions.
Alors il y a un très beau passage, nous savons cependant que la vérité qui vient de Dieu, cette fois non pas de l'accusateur, ne nous condamne pas, mais elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne. En quoi Saint-Joseph là, est un guide? Qu'est-ce qui dans sa vie peut...
Eh bien parce que justement, non pas, c'est là que je disais, attention, il n'est pas du côté de la faiblesse, mais du côté de la paternité. C'est un père de tendresse. C'est lui qui sait nous regarder comme ça.
Un peu plus loin, Joseph nous enseigne ainsi qu'avoir foi en Dieu comprend également, alors là, c'est un autre point, également le fait de croire qu'il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, nos faiblesses. Il nous enseigne que dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin. C'est vrai que quand on médite sur le mystère de Noël, on se dit qu'il fallait quand même un sacré abandon.
Exactement.
On pense par exemple à la fuite en Égypte.
Mais même à la crèche.
C'était quand même, oui, voilà.
Bien sûr.
C'était en pleine nuit et puis ils sont partis avec leur petite âne pendant que les femmes hurlaient et que leurs enfants étaient tués par Hérode. C'est...
Tout à fait, tout à fait. Saint Joseph est vraiment l'exemple d'un renoncement à la maîtrise. C'est Dieu qui tient le gouvernail de sa vie à 100%. Il n'y a aucune décision que prend Saint Joseph qui ne soit inspirée de Dieu.
C'est-à-dire que chez lui, il y a le préalable de la confiance, c'est ça, pour tout lire la réalité quelque
part ? Absolument. C'est la clé ultime de l'identité et de la vie spirituelle de Saint-Joseph. C'est la confiance totale. La confiance totale. Et comme on disait tout à l'heure, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, pof, il la prend. Il n'y a que dans la confiance qu'on ne discute pas. Or, pour nous, la confiance, c'est ce qui est le plus compliqué, parce que c'est ce qu'on donne en dernier. C'est très long avant de donner sa confiance à quelqu'un.
Ce qui semble assez naturel entre nous, non ?
Bien sûr.
La confiance, ça se construit, comme on dit.
On se méfie à cause des trahisons, des blessures et de toutes ces faiblesses que chacun porte. Et non seulement on la donne en dernier, mais ce qui est encore plus dur, c'est que c'est ce qu'on reprend en premier. On dit « Ah, Jésus, je veux bien te suivre », puis tout à coup, on se rend compte. On dit « Ah, Seigneur, je veux bien te suivre jusqu'au bout du monde », et puis alors, dès qu'on traverse les frontières du village, on dit « Ah oui, non, bah, pas si loin, parce que là-bas, je ne connais pas », ou « Là-bas, c'est des gens pas bien », et on reprend ce qu'on a donné. À la moindre épreuve ou à la moindre incompréhension, on a tendance à rattraper un peu tout ce qu'on a promis à Jésus. Donc, Saint Joseph n'a jamais fait ça. Il n'y a aucun moment où il a dit « Ah, ben, dans ces conditions-là, je rentre chez moi ». Non, il se laisse conduire par le Seigneur, toujours.
Patrice Cordet, c'est le titre donc de la lettre apostolique du pape François que l'on parcourt ce matin, en ce début d'année 2021, à l'occasion de cette année Saint-Joseph. On fait une deuxième pause et on vous retrouve, on va continuer de parcourir cette belle lettre.
Radio Présence à Lannemezan, 92.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
2021, l'année Saint-Joseph, c'est donc le titre pour rappel de l'émission Vivante Église de ce matin et nous sommes avec Dominique Joseph, j'avais oublié de le rappeler, qui est donc religieux de la famille Saint-Joseph, prêtre et professeur d'écriture sainte à l'Institut catholique de Toulouse. Famille Saint-Joseph qui est donc une famille religieuse qui se situe dans l'Hérault près de Béziers. Quatrième chapitre, Père dans l'accueil. Le pape François donc là nous explique que suivre Saint Joseph c'est une manière de se réconcilier avec son histoire. Alors là c'est la fine pointe de son propos, mais si on commence par le début, Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. On rebondit sur le thème de la confiance qu'on avait évoqué avant. Il se fie aux paroles de l'ange. La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu'il a appris de la loi. Là, il cite un autre texte, je crois, le pape François. Et aujourd'hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers les femmes est patente, Joseph se présente comme une figure d'homme respectueux, délicat, qui, sans même avoir l'information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. En tout cas, c'est une figure d'homme qui n'est pas toujours l'idée qu'on se fait de Dieu, peut-être pour le grand public. Hein. Dieu n'a toujours pas bonne presse, même parfois chez les chrétiens. On a vite fait, en fait de fantasmer sur un Dieu Père et de le voir autrement que cette figure de tendresse. Joseph nous apprend en fait à découvrir le Père quelque part.
Oui, je crois qu'il nous réconcilie avec la loi. Le Saint-Père le dit à plusieurs reprises, il insiste pour dire qu'il est obéissant à la loi. Et Jésus lui-même sera obéissant. Le seul qui obéira parfaitement à la loi, c'est Jésus, hein, qui a bien dit que pas un iota ne sera souscrit. Il va l'accomplir, il va obéir et il va même l'accomplir. Donc oui, c'est une figure de réconciliation parce que je crois que pour nous, de manière culturelle, on n'est pas dans les conditions de l'Église primitive, hein, mais nous, aujourd'hui, la loi est toujours un obstacle, toujours perçue comme un obstacle à la liberté, à l'épanouissement, à l'autonomie. La loi, c'est ce qui nous est imposé par un plus fort. La loi, c'est ce qui vient d'en haut et qui nous donne des contraintes. C'est un peu ça. Et évidemment, la loi de Dieu n'est pas de cet ordre-là, mais pas du tout. La loi de Dieu, d'abord, il y a quelque chose... Oh, permettez-moi juste de faire le savant, juste une toute petite minute. Il y a deux mots pour dire l'instruction, l'enseignement en hébreu. Il y en a un qui est la Torah et il y en a un qui est la Moussar. Moussar, c'est la loi du Père et ça se traduit par correction, discipline. Et Torah, c'est la loi de la mère et c'est un enseignement de tendresse, un conseil. Or, vous voyez que la loi du judaïsme, la loi qu'il faut pratiquer et mettre en œuvre, on l'appelle la Torah. Donc, ça veut dire qu'il y a dans Dieu le Père une tendresse maternelle qui lui fait nous donner une loi de vie, une loi pour la vie et au service de la vie.
Alors, quand le pape François, donc, qui se cite lui-même, hein, c'est une homélie donc,
d'une messe
de béatification donc, de 2017, la noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu'il a appris de la loi. Donc là, ça renvoie donc, au fait que, on va dire, peut-être quand on n'est pas aussi savant que vous, on comprend que cette grossesse inattendue, Joseph aurait pu donc, imaginer qu'elle était liée à un adultère, ou en tout cas, les autres peut-être auraient pu penser ça, et que Marie, du coup, était en danger, parce qu'à l'époque, donc, c'était condamné par lapidation. Alors, est-ce que vous pouvez démêler un petit peu ce nœud-là ?
Je crois que la question ne se pose pas exactement comme ça. D'abord, il est impensable de formuler l'hypothèse que Joseph ait soupçonné la virginité de Marie. Il n'a pas pu penser un seul second.
On peut imaginer aussi qu'elle lui a raconté ce qui lui était arrivé aussi.
Non, justement, elle ne lui a rien dit.
Ah bon ?
Elle ne lui a rien dit parce que l'ange ne lui a pas dit de le dire. Hein ? Et il y a quelques confirmations latérales dans des révélations privées, mais peu importe. Dans la lettre de l'Évangile, l'ange ne lui demande pas de parler, donc elle se tait. Et Joseph, de fait, a son itinéraire à faire. La question de Joseph n'est pas de savoir l'origine divine de l'enfant. Ça, c'est une évidence chez Matthieu comme chez Luc. Non, la question, c'est de savoir ce qui est juste. Et c'est ce point-là sur lequel le pape attire notre attention. C'est-à-dire que nous pensons, parce que nous avons une conception rigoureuse, légaliste des prescriptions, que appliquer la loi à la lettre consiste à agir en toute justice. Mais parce que cette loi est la loi de Dieu au service de la vie, Joseph sait qu'il ne s'agit pas d'aller chercher le paragraphe 3, alinéa 4, et de le mettre en pratique pour faire la volonté de Dieu. La loi est un guide, mais c'est très difficile parce que c'est une loi négative. Je vais vous donner un exemple.
C'est vrai qu'a priori, lapider une femme, on ne voit pas trop en quoi la finalité est juste.
C'est pas la question de la lapidation, c'est la question de la nature de la loi. Les 10 commandements, il est écrit par exemple, tu ne tueras pas. La loi est négative, tu ne tueras pas. C'est terrible comme loi, parce que ça nous dit ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire ça ne nous dit pas grand-chose. Mais est-ce que je peux aller à la montagne ? Fais ce que tu veux, mais tu ne tueras pas. Est-ce que je peux traverser la mer en bateau ? Je t'ai rien dit. Moi, je t'ai juste dit, tu ne tueras pas. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Alors que nous, notre conception de la loi, c'est à 14h, traverse la mer en bateau. Et tu dois faire ça pour être juste. Mais vous voyez que la loi, elle ne travaille pas comme ça. La loi dans l'Ancien Testament, elle ne travaille pas comme ça. Elle nous donne les frontières d'un jardin dans lequel nous sommes libres. Et ce jardin-là, c'est le bonheur, c'est l'amour. Et donc, le travail de Saint Joseph, qui devrait être le nôtre également, hein, c'est de dire, qu'est-ce que je peux inventer pour être fidèle, c'est-à-dire pour vivre dans le jardin que délimite la loi.
Et un petit peu plus loin, comme en prolongement presque de votre propos, le pape François dit la chose suivante, « Bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive, et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce thème de la réconciliation ? Le pape François nous laisse entendre qu'en fait, suivre Saint Joseph, en tout cas méditer cette figure, voire même arriver à nouer une relation, hein, ça reste peut-être mystérieux pour nombre d'entre nous, c'est une manière aussi d'apprendre à se réconcilier avec son histoire.
Absolument, absolument. Je vais être un peu provocateur, si vous me le permettez, et je vais répondre à votre question, non pas en parlant de Joseph, mais en parlant de Marie. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le mot de réconciliation. Qui est en fait lié plutôt, parce que pour nous la réconciliation c'est quand il y a une épreuve et un manquement, quand il y a une trahison il faut se réconcilier, quand il y a un échec il faut le surmonter. Et donc pour nous, nous réconcilier avec notre histoire, c'est de dire, je prends un exemple bateau, mettons qu'il y ait un cas d'adultère et le couple qui dit, ben, comment est-ce qu'on va vivre notre alliance après cette trahison ? Donc là il y a une réconciliation, il y a une intégration à faire. Mais on n'en est pas là dans le couple de Marie et de Joseph, pas du tout. Ni chez Saint Joseph, ni chez la Vierge Marie. La réconciliation est plutôt à comprendre dans l'ordre de l'intégration, la notion biblique de pureté, c'est-à-dire de simplicité, d'unité de la personne. Regardez la Sainte Vierge. Aussi loin que remonte sa conscience, elle sait qu'elle est la Vierge. Elle sait qu'elle est entièrement consacrée. Et vient la question du mariage. Alors, il y a quelque chose qui est une épreuve terrible. C'est là qu'on dit « Ah, elle a eu la visite d'un ange, c'est facile ». Non, c'est pas facile parce qu'elle a une question terrible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais que je suis consacré et je sais que je vais me marier. C'est antinomique. Où est la position qui fait que c'est vivable ? Mais il n'y a que Dieu qui peut imaginer ça. Un homme ne peut pas imaginer ça. Donc, elle a des épreuves et Joseph a eu ces épreuves que nous n'avons pas. Parce que nous, ce qu'on a à comprendre, c'est vraiment simple. Tout est déjà expliqué. Enfin, on n'a pas des choses aussi fantastiques.
Oui, enfin, parfois, nos vies apparaissent bien contradictoires et des situations bien compliquées aussi.
Parce que nous nous sommes mis dans des cas d'impossibilité, des conséquences, suite aux conséquences de notre péché. Ça peut être...
Toujours, vous avez un enfant qui déclare une schizophrénie, vous perdez votre travail, vous n'êtes pas toujours responsable au premier degré, on va dire.
Et oui, mais là, il n'y a pas de question qui se pose. Où est le discernement ? Si votre enfant est malade, il faut le soigner. Si vous avez perdu votre travail, vous n'y êtes pour rien, c'est certes, mais
Mais ça peut blesser parfois son histoire aussi, quelque part. Enfin, ça peut...
Oui, mais là, je
On
parlais...
a du mal à l'aimer comme elle est, on va dire, cette histoire.
Ah, on peut l'aimer comme... Oui, c'est la question de l'aimer comme elle est. Mais là, je parlais de la réponse à la question « Qui suis-je ? » Parce que pour savoir ce que je dois faire, il faut savoir qui je suis. L'agir découle de l'être. Et donc la Sainte Vierge a à découvrir qu'elle est la Vierge, qu'elle est appelée au mariage, et que ce mariage, en plus, va avoir une telle fécondité qu'elle sera mère. Vous voyez ? Donc tout ça, c'est des redécouvertes du mystère qui était présent dès le départ, mais que, dans un chemin de foi, on a à approfondir. Alors nous, c'est là que notre propre réconciliation, elle est d'une autre nature que la leur, mais quand même, c'est la même question de l'unité, de qui suis-je ? Fondamentalement la simplicité du cœur, l'unification de ce que nous sommes, qui justement, chez nous, est très vite éparpillée. Parce que les passions peuvent être désordonnées, les échecs peuvent être multiples, les échecs ou les trahisons. On peut finir par perdre de vue qui on est ou quel est le but de notre vie.
La vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille, dit le pape François. Alors j'aimerais qu'on finisse en parlant du don de force. Le pape François dit la chose suivante, « Joseph n'est pas un homme passivement résigné, il est fortement et courageusement engagé. L'accueil, dit le pape François, est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. » Saint Joseph, on a l'impression que c'est... Le pape François utilise cette expression, hein, c'est ces hommes et ces femmes de deuxième ligne. Deuxième ligne, au rugby, sauf erreur de ma part, il faut quand même aussi être costaud. Et il y a toujours un mélange à la fois de discrétion et de force chez Saint Joseph. Alors expliquez-nous ce don de force qui est le fruit quelque part de l'accueil, au dire du pape François.
Alors non, c'est pas le fruit. Hein. Il dit que
c'est un moyen.
L'accueil est un moyen par lequel le don qui nous vient de l'esprit se manifeste. Autrement dit, celui qui reçoit de l'esprit le don de force vit l'accueil. Celui qui vit l'accueil manifeste qu'il a reçu le don de force. C'est ce que dit le Saint-Père. C'est une des manifestations, effectivement, du don de force, c'est-à-dire la capacité, l'accueil ici, au sens de l'ouverture à l'autre. L'autre en tant qu'il est autre, c'est-à-dire différent de ce que je suis.
Et ce qu'on entend aussi dans ce que dit le pape François, c'est qu'un homme qui a pris l'habitude quelque part de la confiance, de l'accueil, d'être dans cette disposition, serait du coup peut-être plus susceptible à recevoir ce don de Dieu et ce don de force.
Oui, celui qui est dans une attitude d'écoute et dans une attitude de réception, et alors évidemment les dons de l'Esprit-Saint vont porter du fruit parce qu'il est dans une attitude pour les recevoir, pour les laisser déployer leur vertu dans sa vie.
Est-ce que ça dessine pas une autre figure quelque part aussi de la virilité, de la force masculine? Saint Joseph, ça n'est pas de prime abord la virilité contemporaine telle qu'on l'imagine. Pour autant, c'était un homme qui était d'une grande force.
Exactement. La force au sens de dire je vois ce qu'il y a à faire et je le fais. Et c'est ça la difficulté. Et d'une manière positive et d'une manière négative d'ailleurs, hein, c'est lié à la tempérance. C'est-à-dire, je vois aussi ce qu'il faut pas faire et je ne le fais pas. Les deux sont les manifestations du don de force. Donc, ça n'est pas une capacité à soulever des montagnes, au sens où on entendrait que la force nous permettrait de réaliser des projets que peu de gens peuvent réaliser, parce qu'on aurait une énergie intérieure, un dynamisme tel qu'on pourrait faire évoluer les choses ou faire aboutir certaines entreprises. Non, c'est la capacité de se tenir à sa place, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est à moi de faire ça, je le fais, simplement. Il n'y a pas besoin de l'expliquer. C'est là qu'il dit, il n'y a pas besoin d'explication. C'est moi qui dois faire ça, je le fais. Ça, je ne dois pas le faire, je ne le fais pas. Et sans discussion.
On va s'arrêter là parce qu'on vous retrouvera donc exceptionnellement. On fera deux émissions, l'une sur l'autre, ou l'une après l'autre, pardon, sur Saint-Joseph avec vous, pour continuer la lecture demain matin de cette lettre apostolique Patrice Cordet, un cœur de père. C'est un texte relativement court à parcourir, accompagné donc de vous en l'occurrence. Et on a bien de la chance. Merci beaucoup et à demain donc.
À demain, merci de votre accueil.
Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet. Notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.